France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est bon.
On a tous un cousin, un oncle, un grand-père qui a eu sa cabane à sucre. On fait bouillir le sirop d'érable et on poche les œufs directement dans le sirop d'érable. Ça fait vraiment partie de notre ADN.
Donc, l'objectif de l'Office montréalais de la gastronomie est de faire de Montréal une capitale gastronomique en Amérique du Nord. Donc, on vient à Montréal, c'est pas seulement pour manger des bagels, des smoked meats ou une poutine, bien que ce soit incontournable, mais c'est aussi pour aller goûter à de la cuisine mexicaine, haïtienne, afghane, à chaque coin de rue. C'est incroyable et c'est ça qu'on veut crier au monde entier.
C'est pour ça que les bagels de Montréal sont nettement supérieurs à ceux de New York.
On va déguster Faites escale à Montréal. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus nombreux. Nous sommes très heureux de dresser le couvert en public, vous l'avez remarqué, Place des Arts en plein cœur de Montréal, à l'occasion de Montréal en Lumière, l'un des festivals d'hiver les plus importants au monde. 24e édition cette année, un festival qui met en avant les arts, l'art de vivre, la gastronomie dans la grande métropole du Québec. Avec l'équipe dont on va déguster, nous avons bravé le froid, nous avons bravé la neige, et ça c'est quand même un exploit pour des Français, pour prendre ici le pouls de la gastronomie. Et on peut d'ores et déjà vous assurer, chers auditeurs, chères auditrices, que Montréal a bien une identité culinaire passionnante, des racines multiculturelles, une formidable vitalité créative et des tables tout aussi attachantes que surprenantes. Explorons donc le goût de Montréal avec nos deux invités et ma bande de chroniqueurs. Tout d'abord, Simon Matisse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des chefs les plus en vue sur la nouvelle scène gastronomique de Montréal, au fourneau d'un restaurant qui se nomme...
Le Master.
Master. On est dans quel quartier à Montréal?
On est en deux quartiers. On est sur Villeray et de l'autre côté de la rue, c'est Rosemont. Donc, on est vraiment en deux quartiers.
Votre cuisine fait beaucoup, beaucoup parler d'elle au Québec et même au-delà, sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est engagée, elle est talentueuse, elle est enracinée et elle interroge l'identité culinaire de Montréal et du Québec. On va voir ça avec vous, notamment à travers quelques produits que vous cuisinez du terroir québécois que ne connaissent pas du tout les Français, ça j'en suis sûr. Nous accueillons également l'une des meilleures observatrices de la gastronomie de Montréal, c'est Geneviève Vézina, mon plaisir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, Geneviève, et vous avez cofondé en 2014 le magazine Caribou. C'est un peu le média de référence de la culture culinaire québécoise. On va tenter avec vous de comprendre. Est-ce qu'on peut parler de réveil de la gastronomie montréalaise, évidemment, hein?
Bien sûr, c'est un réveil qui a commencé il y a plusieurs années, mais qui continue de jaillir.
Et je dois dire qu'on a été assez impressionnés avec la bande dont on va déguster, parce qu'on a fait quand même un petit marathon gastronomique dans la ville. Et très sincèrement, il y a eu de très très belles expériences à la clé. Évidemment, on ne va pas éviter aussi quelques cartes postales comestibles. Je veux parler de bagels, de smoked meat en bon français, hein. Et évidemment, on va parler de poutine. Malheureusement, on va être obligé, hein.
On n'a pas le choix.
Voilà, mais poutine, on va parler d'un poutine comestible. Ils ont fait le voyage avec moi depuis Paris. Notre chroniqueuse reportrice Zazie Tavitian, notre spécialiste de la littérature gourmande Stéphane Sollier.
Bonjour.
Et l'un de nos chroniqueurs vins Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les trois.
Bonjour à tous.
Zazie, un petit avant-goût.
Moi, je suis allée prendre le bus pour aller rencontrer la chef Abenakis, Lisanne Obomsawin.
Très bien. Et on va parler des racines très importantes, oui, de la cuisine québécoise. Stéphane?
Oui, on va plonger dans les marmites des personnages d'un grand auteur montréalais contemporain que l'on compare très facilement et très volontiers à un Balzac québécois.
Je suis sûr que nos auditeurs et nos auditrices derrière leur poste de radio ont la solution des jeux. Un grand auteur montréalais très connu dans le monde francophone. Et puis Jérôme?
Alors moi, c'est ma traditionnelle petite devinette de début d'émission. On est de là, on va parler de viticulture, et c'est là où le continent européen vient à la rencontre du continent nord-américain.
Et c'est une très belle histoire que vous allez nous le raconter dans le verre. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec l'aide de Daniel Haussan et Steve Saint-Pierre de Radio-Canada et de Philippe Moquin pour la sonorisation. Fabrice Rivaud s'est occupé de la production et de la préparation de l'émission. Pour retrouver tous les contenus de notre émission et notamment notre très beau carnet d'adresses gourmands, on en a fait un à Montréal avec des brasseries, des restaurants, des bistrots, des sandwicheries. y en a vraiment pour tous les goûts. Le chemin est tout tracé. Franceinter.fr, à la page. On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
La meilleure façon de voir ce qu'une ville a dans le ventre, bah c'est évidemment d'aller au marché. Et nous avons mis le cap avec toute l'équipe dont on va déguster sur l'ouest de Montréal. Je vous entraîne dans le plus beau, le plus gros marché de la ville. Un marché à vous mettre l'estomac dans les talons. Vous voyez ce que je veux dire? Le marché Jean Talon, avec quand même plus de 100 étals et kiosques. On y croise même, tiens, tiens, des artisans français.
Oui, je suis Jérôme Arlabos, je suis le crêpier du marché Jean Talon, depuis une bonne quinzaine d'années ici. Alors, on travaille avec des produits locaux, et puis une petite particularité, c'est qu'on travaille sans gluten. En fait, on est la seule crêperie entièrement sans gluten. On parle de vraies galettes de sarrasin du Québec, du sarrasin du Québec magnifique, un beau produit bio, avec, évidemment, on va mettre du sel de Guérande, du Guérandais, ça, on n'a pas le choix. On a une identité montréalaise très ancrée, et puis nos racines bretonnes. Moi, ma grand-mère était de Plougastel d'Aoulas, d'origine maternelle.
Moi, c'est Benoît Saint-Jacques. Je travaille pour les Jardins Sauvages. On travaille avec une soixantaine de champignons sauvages et autant de plantes qu'on cueille là, en pleine nature là, quand c'est la saison. Toute la transformation, c'est des produits qu'on utilise en cuisine à notre restaurant. Devant vous, il y a un champignon qui s'appelle le lactère odeur d'érable. Un champignon qu'on va utiliser surtout pour faire des desserts, parce que même à travers le sachet, vous allez voir, ça sent les champignons à l'érable.
Alors, déjà, on a le sirop d'érable pur. Alors, vous avez quatre teintes différentes. Donc, vous avez d'abord le doré, l'ambré, le foncé et le très foncé. C'est exactement la même teneur en sucre. Tout ce qui va varier, c'est l'intensité du goût. Le plus commun étant le sirop ambré, celui qu'on a l'habitude de consommer au quotidien.
Donc moi, je suis Joanne Jacques, fromager au Marché des Saveurs. Et aujourd'hui, on rassemble plus ou moins ici dans le comptoir 150 fromages différents du Québec. Fromagerie La Station à Compton avec son Alfred, qui est un type comté. On peut partir dans les petits chèvres avec la Maison Grise qui nous fait des magnifiques crottins. La fromagerie du Presbytère qui fait un brie extraordinaire. Ferme des Broussailles avec une tome de chèvre, une tome de brebis, un peu dans le style des tomes de Savoie. Ça en fait déjà quelques-uns.
Du sirop d'érable aux galettes de sarrasin à la bretonne, de la gastronomie forestière au fromage au lait cru, ça gargouille, c'est vert. Dans le ventre de Montréal, le fameux marché Jean Talon, il paraît qu'il est impressionnant. Dès qu'arrivent les beaux jours, les portes s'ouvrent. Et là, il y a une ambiance tout à fait différente. Vous confirmez, Geneviève?
Oui, il faut y aller à ce moment-là parce que là, toutes les étals sont remplies. On peut acheter nos plants pour planter. Donc, il y a toute une nouvelle partie qui est accessible. Puis, c'est vraiment coloré. Quand c'est les récoltes, c'est vraiment l'endroit où aller.
On a cherché une vraie vedette au marché Jean Talon. On ne l'a pas trouvé, mais il paraît qu'il réapparaît en général au beau jour. De qui s'agit-il?
Bien, il s'agit de Lino Berry de chez Berry. Lui, il est comme né dans le marché Jean Talon.
Ça sonne donc, italien, hein?
Oui, d'origine italienne, effectivement. Et lui, depuis 65 ans, il est au marché. À 8 ans, il vendait des patates déjà au marché. Et maintenant, il a son kiosque avec son frère. Et on les reconnaît avec leurs salopettes vertes. Ils sont, quand c'est la belle saison, ils sont à peu près cinquantaine d'employés là, à servir les clients. Puis il y a beaucoup de chefs aussi qui vont chercher les produits de qualité chez Berry. Il y a un beau grand sourire, il est accueillant. C'est comme un peu un papa.
On va revenir cet été pour le rencontrer. Simon Matisse, votre restaurant Mastar n'est pas situé très loin du marché Jean Talon.
C'est vrai.
Est-ce que vous y avez quelques habitudes?
Moi, j'y vais au moins tous les week-ends, si ce n'est pas en petite famille, pour voir ce qui se passe. Je pense que le meilleur pouls de ce qui se passe en saison, ça reste le marché. Fait que je trouve que c'est une démarche qui est importante pour tout cuisiner, je pense, de se promener au marché et de voir ce qui se passe.
On a été aussi assez impressionnés avec l'équipe par ce comptoir épices du cru Ethné et Philippe de Vienne, avec un travail d'approvisionnement, de sourcing d'épices dans le monde entier tout à fait spectaculaire, mais également des ressources locales. Je ne sais pas s'ils ont cette petite chose que vous nous avez apportée, Simon Matisse.
Ah, je ne sais pas, je ne me suis jamais renseigné.
De quoi s'agit-il?
C'est du thé des bois.
Du thé des bois. Alors moi, je ne connaissais pas. Évidemment, la moitié du public connaît par cœur, non? C'est ça? D'accord. Très bien. Alors, sentez ça et dites-moi justement ce que ça goûte.
Moi, ça me fait penser... Alors, c'est un peu spécial, mais au chewing-gum Steamroll que mâchait ma grand-mère.
C'est exactement ça.
J'ai l'impression d'être dans sa voiture, là. Et donc,
absolument.
Ah, il y a une note réglissée, ouais.
Nous, on dit le Paperman, qui est un petit bonbon rose que nos grands-mères gardaient toujours pour nous.
Qu'est-ce que vous en faites, Simon Matisse?
Surtout des infusions, des desserts, des granités.
Et ça peut se boire comme une infusion qui réchauffe ou qui rafraîchit?
Absolument. Ouais, chaud ou froid, les deux, ça marche très bien.
Vous êtes très soucieux, évidemment, de toutes les ressources que vous offre le terroir du Québec. Hein. C'est même un peu votre démarche. C'est ce qui fait sans doute l'originalité, la singularité de Mastar. Alors Mastar, nous on est français, mais on a un peu oublié ce mot dans nos dictionnaires. Est-ce que vous pouvez nous donner un synonyme de Mastar, le nom de votre restaurant, Simon Matisse?
C'est un peu un individu qui est grand et costaud. Puis on s'est mis à chercher beaucoup des noms.
C'est vrai que là, juste à côté, on a vraiment un cure-dent. Hein.
Tout faisait de sens.
Eh bien, ça va très bien. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être une façon de jouer avec ce cliché? Vous savez, souvent, les Français, lorsqu'ils parlent de la cuisine du Québec, ils ont tendance à dire, avec une petite pointe d'arrogance, hein, on a quand même ce gros défaut, nous autres Français, cuisine de bûcheron, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui. Au début, ça me dérangeait. On dit, mais je pense que je commence à l'assumer.
Mais alors qu'en fait, très sincèrement, et c'est pas du tout pour lui jeter des fleurs, on a vécu une très belle expérience hier avec vraiment des créations tout en équilibre, tout en harmonie, tout en finesse, vous confirmez?
Oui, il y a beaucoup de raffinement. C'est un bûcheron qui serait très très raffiné. Coup, hein. Vraiment, notamment les assaisonnements, les textures, des jeux de textures, très haut niveau, ouais, vraiment.
Dans le cadre de Montréal en lumière, vous étiez dans un superbe quatre-mâts avec un chef français d'ailleurs qui a eu 3 étoiles au Plaza Athénée à Paris, Romain Médère, oui, qu'on connaît beaucoup en France et qui a une très belle réputation dans le monde de la gastronomie. Eh ben, ce quatre-mâts s'est merveilleusement bien passé et c'est vrai qu'on a vécu des émotions tout à fait incroyables avec des produits d'ailleurs qu'on connaît pas forcément. C'est vraiment ça votre démarche, sortir peut-être de l'ornière des produits un peu méconnus ou parfois même sous-estimés?
Oui, sous-estimé ou souvent utilisé dans les familles, puis souvent détesté. Moi, je parle comme exemple le rutabaga, c'est un légume que j'aime beaucoup, mais qui a été utilisé dans beaucoup trop de bouillie, pas assaisonné. Avec nous, notre but, c'est un peu de lui donner un peu ses lettres de noblesse, de le travailler, puis de l'amener à un niveau où on espère que les gens vont l'apprécier.
Parlons d'un plat qui fut vraiment prodigieux, poisson doré de lac. Ouais. Bon. Moi, j'en avais mangé une petite fois il y a des années, en été, mais c'est un poisson que ne connaissent pas les Français. Et vous l'avez accommodé, en fait, avec à la fois une influence typiquement québécoise, une influence britannique. Racontez-nous.
En fait, le doré de lac, c'est au Québec, c'est un poisson qui est super connu. Tout bon pêcheur aime le doré. Je pense que ça reste un poisson que tout le monde aime ici. On a fait une sauce au pain pour l'accompagner, qui est un peu l'héritage britannique de notre histoire. Et on a travaillé après ça un beurre noisette au clou de girofle, qui est une épice qui ne vient pas nécessairement d'ici, mais qui est ancrée 100% dans nos recettes. Toutes les recettes de cuisine traditionnelle du Québec ont du clou de girofle un peu partout.
Et puis, il y avait la rondeur d'un beurre noisette, il y avait une chair assez ferme d'un poisson extraordinaire que vous avez préalablement saumuré, c'est bien cela?
Exactement.
Pour raffermir un peu les chairs du poisson?
Absolument. C'est une technique, je pense, qui est bien pour les poissons blancs. Comme ça, la chair devient super floconneuse et très juteuse.
Ça date de quand? Geneviève Vézina, mon plaisir. Ce réflexe des jeunes chefs, des jeunes talents de la scène gastronomique montréalaise, de se réapproprier leur terroir, de le redécouvrir et parfois même de pousser la recherche jusqu'à des produits qu'on connaissait très peu il y a encore quelques années.
En fait, ce sont des chefs français au départ qui nous ont un peu montré les produits qu'on avait ici, parce qu'on parlait un peu de l'héritage bûcheron. Je pense qu'il y avait des fois peut-être un petite honte de certains produits. Des chefs français les trouvaient extraordinaires. Ils les ont mis de l'avant. Je pense entre autres à Marcel Kretz, qui est décédé récemment, qui a été un pionnier. Et après ça, il y a eu des chefs comme Normand Laprise, Anne Desjardins, Colombe Saint-Pierre aussi, qui ont vraiment décidé de mettre la lumière sur ces produits-là et de les transformer, de les sublimer. Puis Simon, ça fait quand même très longtemps qu'il est sur la scène montréalaise. Ça fait longtemps que je le suis aussi et ça fait très longtemps qu'il fait ça. Tu vas dans un resto à Montréal, il va avoir des produits locaux, il va avoir des produits du Québec. On n'a plus honte de nos produits, on veut les montrer, on veut les sublimer, même si c'est devenu comme naturel.
On évoque souvent dans les articles que j'ai lus ainsi que certaines études historiques la date de 1967 comme date charnière pour la gastronomie québécoise.
Oui, c'était l'Expo 67, donc tous les yeux étaient tournés vers Montréal. Avant, Montréal était quand même une ville gastronomique. On disait quand même que c'était le Paris de l'Amérique, mais est-ce que c'était vraiment ça? C'est vraiment à partir de ce moment-là que les Québécois ont découvert différentes cultures. Il y avait au-dessus de 44 pays qui étaient présents. Il y a beaucoup de chefs français aussi qui sont venus travailler pour Expo 67 et qui sont restés et qui ont contribué au développement de la culture culinaire québécoise. L'année suivante, il y a eu l'Institut de tourisme et d'hôtellerie qui est arrivé aussi, qui a vraiment contribué à former les chefs, plusieurs chefs là, qui sont encore là aujourd'hui. Toutes les influences maghreb, Asie, chinoise, indienne, japonaise sont arrivées chez nous et ils sont restés.
Le cosmopolitisme, les multiculturalismes dans les marmites, ça c'est vraiment une donnée très importante du paysage gastronomique de Montréal. On va le voir tout au long de cette émission. Mais c'est aussi des traditions, la cuisine du Québec, des savoir-faire familiaux, des histoires de goût, des anecdotes historiques. Et l'un des témoins majeurs de ce patrimoine populaire fut un écrivain renommé dans le monde francophone qui a connu beaucoup de succès en France et au Québec. Est-ce qu'on a, sans trop dévoiler l'identité de cet écrivain, une petite idée dans le public ? Voilà, oui, carrément. Eh ben, on va voir, hein, résultat des jeux tout de suite.
France Inter. On va déguster.
Les arômes de dinde, de tarte, de beigne, de tourtière, d'oreilles de Christ et de paix de sœur luttaient sans trop se mêler, ou s'ils se mêlaient, gardaient leur couleur propre et agressaient les narines en bouquets multiples qui montaient au cerveau et le gelaient, l'empêchant de fonctionner tant ils étaient enivrants. Cet extrait de « La Duchesse et le Roturier », le troisième des six romans qui composent le cycle chronique du plateau Mont-Royal du romancier et dramaturge contemporain Michel Tremblay, nous permet de plonger dans les saveurs traditionnelles du patrimoine culinaire québécois et montréalais jusqu'aux années 60, c'est-à-dire avant l'Expo universelle Expo 67, cet événement le plus important des célébrations du centenaire du Canada. Le tout dans la langue le joual, qu'on parlait à l'époque, qui était la langue qu'utilisaient les ouvriers de Montréal dans les années 40-50. Anne Fortin, l'ancienne libraire de la librairie gourmande du marché Jean Talon, ici à Montréal, a magnifiquement consacré un ouvrage à cette cuisine dans l'œuvre de Tremblay, ainsi cuisinaient les belles-sœurs dans l'œuvre de Michel Tremblay aux éditions Flammarion Québec, l'Éméac, en 2014. Un livre tout ce que j'aime, fait d'explications historiques anecdotiques, d'extraits littéraires et d'archives iconographiques. Grâce aux deux grands cycles romanesques de ce Balzac québécois qui a composé une véritable comédie humaine, les chroniques du plateau Mont-Royal et la diaspora des Desrosiers, Anne Fortin nous aide à comprendre les grandes lignes du répertoire culinaire de la belle province. Je dirais que d'abord, si on veut définir pour les Français et à travers Michel Tremblay ce qu'est la cuisine québécoise, c'est d'abord une cuisine rustique et identitaire, avec des plats qui fleurent bon les camps de bûcherons dont on parlait il y a peu du début du XXe siècle, la cuisine de ceux qu'on appelait encore les Canadiens français, tant ruraux qu'urbains, se goûte dans beaucoup d'endroits à Montréal encore aujourd'hui. Je suis allé en pèlerinage sur les terres de Michel Tremblay, c'est-à-dire sur le plateau de Mont-Royal, où les passionnés peuvent encore retrouver les maisons d'enfance de l'écrivain. Et je me suis attablé à la Binerie Mont-Royal, cette institution qui date de 1938, pour découvrir les saveurs auxquelles ont droit ces personnages. Cette cuisine populaire navigue entre soupes, dont la fameuse soupe au pois, hein, soupe au pois jaune, qui a valu aux Québécois le surnom de « pea soup » par les Anglais au XIXe siècle. Pois jaune entier, lard salé, oignons, herbes aromatiques.
Pois jaune, hein ?
Pois jaune.
Il n'est pas forcément très connu, celui-ci,
non,
en France.
Exactement, c'est un pois cassé, mais pois jaune. Entre soupe ragoût dont les fèves au lard, ces petits haricots blancs cuisinés au four avec du lard et assaisonnés de mélasse, ou bien le ragoût de pâte de cochon dont se plaignent les travailleurs dans La Traversée des Sentiments, hein, le troisième volume de La Diaspora des Desrosiers, les oreilles de Christ dont je parlais dans la citation du début, ces tranches de lard salé avec la couenne préalablement bouillie et rôtie à la poêle pour devenir très croustillantes comme des oreilles du Christ, très irrévérencieux Michel Tremblay. Des tourtières, évidemment, dont la fameuse tourtière du lac Saint-Jean que dégustent voluptueusement les sœurs célibataires Titite et Tina dans La Grande Mêlée.
Alors ça, tourtière, ça sonne très vieille France, hein ?
Ça sonne très vieille France, c'est une tourte, hein, dont la recette est très controversée, hein. Il y a des combats pour savoir si on met de la viande de porc, de bœuf, et ou du gibier, et ou des pommes de terre, et des herbes. Alors je suis allé avec vous, hein, François-Régis, au marché... Et aux épices du cru, j'ai trouvé un très beau mélange du Québec, tourtière de Charlevoix.
Je suis sûr qu'il y a des clous de girofle.
Évidemment, il y a des clous de girofle. Et nous mettrons sur le site de l'émission la recette d'une amie, qui est Gabrielle Lazur, hein, l'actrice franco-québéco-américaine, qui nous a gentiment dévoilé les secrets de la tourtière de sa grand-mère.
Et c'est carrément devenu une amie?
Ah, quasiment. Oui, oui, oui.
Ça va vite.
Exactement. Et indissociable de ces tourtières, les paix de sœurs dont je parlais dans la citation de début, hein, qui contrairement aux paix de nonnes françaises, sont confectionnées avec le surplus des pâtes de tourtières, découpées en tronçons, enduits de beurre, saupoudrées de cassonade ou de sucre d'érable et dorées au four. Bref, beaucoup de délices. Mais cette cuisine québécoise que l'on découvre dans l'œuvre de Michel Tremblay, elle est faite aussi de... C'est une cuisine d'influence, sous influence. Influence anglaise dont on parlait... avec l'incontournable roast beef ou rôti de bœuf, la sauce brune, le gravy dont se régale Édouard dans La Duchesse et le Roturier. Hein. Édouard s'asseyait à la place de sa mère, se servait de rôti de porc, de roast beef ou de poulet en claquant la langue. Ça sent bon sang, bon sens, suivait petits pois et patates pilées avec beaucoup de gravy. Mais aussi quelques influences françaises. Elles ne sont pas énormes hein, dans les œuvres de Michel Tremblay. La sauce béarnaise que les clients vont déguster dans quelques restaurants, le poulet en cocotte qui va peu à peu être éclipsé par de nouvelles manières américaines. Parce que Michel Tremblay nous raconte qu'au début des années 50, les Québécois découvrent la street food du voisin du Sud et le poulet en cocotte se fait voler la vedette par le poulet barbecue américain.
C'est bien moins bon.
Et voilà. Mais Thérèse, en tout cas... personnage du premier quartier de lune, cinquième volume des chroniques du plateau Mont-Royal, invite ses amis, quand il le voulait, à manger une belle cuisse bien rôtie avec de belles patates frites, puis de la belle sauce barbecue. Ça goûte bien trop fort, cette sauce-là. J'ai déjà la langue toute brûlée.
Vous le faites très mal, l'accent.
Je ne fais pas le... J'ai juste lu le texte de Michel Tremblay. Je ne me serais jamais permis d'imiter l'accent. Et même des plats du répertoire identitaire peuvent remonter à cette influence américaine, mais bien plus ancienne. Les fèves au lard dont on parlait seraient issus du contact avec la Nouvelle-Angleterre, hein, les États américains frontaliers du Québec, du début du 19e siècle, hein, plus précisément les Boston Baked Beans. D'ailleurs, ce plat se nomme plat de bean, en francisant les beans américains. Bref, des influences est-européennes avec le smoked meat dont vous avez parlé tout à l'heure, ou les bagels, bien sûr, mais je voudrais... conclure ma chronique par une jolie histoire culinaire. Celle d'une spécialité sous influence mêlée, obscure, légendaire, le fameux pâté chinois. Ce pâté chinois, qui est un plat national, hein, qu'il soit une version du China Pie américain ou une invention des Chinois embauchés pour construire le chemin de fer transcanadien à la fin du 19e siècle, à partir du Shepherd's Pie irlandais, ou qu'il soit une déformation du mot échine, échine de porc, hein, le pâté chinois a été sacré plat national québécois en 2007. Tremblay rapporte l'une des origines de ce hachis parmentier avec une couche de maïs. Hein. Il dit « L'oncle Rosaire a assisté à l'ouverture de l'ultime tronçon qui traverse les Rocheuses jusqu'en Colombie-Britannique. Il a été témoin de la création du fameux pâté chinois de Shepherd's Pie irlandais additionné de maïs, denrée locale, abondante, bourrative, inventée par les cuisiniers asiatiques pour nourrir les hommes des chantiers. »
Michel Tremblay et son rapport au patrimoine culinaire du Québec. Merci beaucoup Stéphane Solier. On va continuer à explorer dans un instant avec nos invités Geneviève Vézina, mon plaisir, et Simon Matisse, le goût de Montréal. Mais juste après, une petite surprise musicale. Tiens, tiens, ça c'est notre programmateur musical Djoubaka à la Maison de la Radio à Paris qui nous a sorti le titre de Rap Musette. Signé Java, ça s'appelle Maudit français, mais attention, il y a un petit jeu de mots sur maudit. Ces mots M-O-T-S et D-I-T-S, vous allez comprendre pourquoi. Vive l'amitié franco-québécoise sur France Inter.
Quand j'ai pris mes quartiers sous Jack dans le Nouveau Monde, il faisait déjà moins 6, on était au mois de novembre. Mon pote Daniel m'attendait sur le tarmac. Je lui dis, je suis gelé, il me fait, t'as fumé, tabernacle? On va prendre mon char pour rejoindre Montréal. Je me suis vu en compagnie de Bénure derrière un cheval. Puis il me dit, faudra qu'on s'arrête au dépanneur. Je fais, ah bon, t'entends un bruit bizarre dans le moteur? Je lui dis que j'ai la dalle, il me dit, dalle de ciment? Puis il finit par comprendre, on s'arrête au restaurant. Il me fait, ici font des hamburgers et des goodies Michigan. Ah, bon, on va faire simple, je vais prendre ce que tu prends. En regardant mes frites en sauce, j'ai fait grise mine. Il me fait, bah quoi, y'a un tchétchène dans ta poutine? Non, c'est très bon, mais c'est un peu écœurant. Il me répond, j'étais sûr que t'allais trouver ça tripant. Disent pas tous la même chose.
Maudit français.
Ça dépend de quel côté on se pose.
Maudit français.
C'est pas toujours la même prose.
Maudit français.
Quand tu jases, moi je cause. Puis me présente un pote,
il était vert fluo. J'ai vu des ours blancs et des orignaux. On rentre dans un bar, il me fait qu'est-ce que tu veux, y'a le water. J'ai pas envie de pisser, appelle plutôt le serveur. On nous sert deux bières avec Charlebois sur l'étiquette. J'aurais rêvé d'avoir 15 bourres sur mon anisette. Puis je croise le regard d'une fille à côté. Elle me dit va creuser la blonde, sois pas génie. Je finis par l'accoster, elle me dit qu'est-ce que tu veux, hostie. Je réponds, je suis pas baptisé, non merci. Je propose de sortir fumer, elle me dit t'as une smoke. Je suis plutôt jean basket, elle me dit c'est quoi, c'est une joke. C'est bizarre comme tu jases, fais un break. Oh tu sais, moi je suis plutôt dans le rap musette. Disent pas tous la même chose. Ça dépend de quel côté on se pose. C'est pas toujours la même prose. Quand tu jases, moi je cause. Dans la rue, j'ai eu des élans romantiques. Mais y avait pas de fleuriste, alors j'ai improvisé. Je ramasse de jolies feuilles d'érable, elle me dit je m'en corlisse. J'aurais préféré un bouquet de fleurs de lys. Viens chez moi, mais je te préviens, j'ai un chum. Bah c'est normal avec ce froid d'attraper un rhume. Arrivé chez elle, elle me dit tire-toi une bûche, tu capotes ? Je sors un préservatif. Espèce de quétaine, range ton bébé, le salaud. Je comprends pas, c'est pas moi qui a demandé. C'est donc comme ça que tu m'aimes-tu ? C'est plutôt sans capote, elle m'a jeté à la rue. Disent pas tous la même chose. Ça dépend de quel côté on se pose. C'est pas toujours la même prose. Quand tu jases, moi je cause. Malgré ces quiproquos, j'ai trippé comme un dingue. De Québec, ville jusqu'à la BTB, Témiscamingue. J'ai rencontré dans ce pays des résistants qui pratiquent avec finesse le langagement. La belle province, je suis en amour. Et comme dit Richard,
quand j'aime une fois, j'aime pour toujours.
On va déguster Plante sa fourchette à Montréal à l'occasion de Montréal en lumière. Merci cher public. Est-ce que vous diriez d'ailleurs, Geneviève Vézina, mon plaisir, que le festival Montréal en lumière a justement, pendant presque un quart de siècle, mis en lumière, c'est le cas de le dire, la gastronomie montréalaise?
Bien sûr, ça a vraiment contribué à faire connaître la belle gastronomie de Montréal à l'extérieur de nos frontières. Puis ça, c'est tous les Montréalais qui en profitent.
Et rassurez-moi, cette gastronomie montréalaise dont on a un bel ambassadeur, Simon Matisse, restaurant Mastar, n'occulte pas des spécialités populaires. En bon français, on dirait street food. Vous vous dites cuisine de rue, je pense. Ou même des spécialités qui pourraient frôler un peu la junk food. Je veux parler de poutine, évidemment. Quand j'ai annoncé que j'allais partir à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup d'amis français qui m'ont dit « Où est-ce que tu vas manger une bonne poutine ?» Ça continue à exciter les appétits, ce plat ?
Ben, nous, en tout cas, je sais pas pour les touristes, mais pour nous, c'est comme un classique. C'est un classique qu'on va manger après avoir pris un verre. C'est quand on a faim, quand on est lendemain de veille. Je sais pas si vous avez cette expression-là.
Oui, oui, je vois bien ce que vous voulez dire.
Mais c'est le plat parfait du lendemain de veille. Et c'est fait avec du fromage de chez nous. Donc, alors, pourquoi pas?
Redonnez-nous une définition, Geneviève, de la poutine. Parce que, évidemment, poutine, en ce moment, on en entend un peu trop parler. Poutine, en France, d'ailleurs, il y a une petite ambiguïté. Stéphane Solier, ça peut être une spécialité du côté de la Côte d'Azur.
Oui, effectivement, ce sont ces petits alevins d'anchois que l'on pêche 3 semaines dans l'année. C'est très réglementé et qui nourrit des spécialités niçoises avec à base de beignets ou d'omelettes.
Mais à Montréal, c'est tout à fait autre chose.
Ouais, mais je pense que ça devrait être réglementé parce qu'il y a 3 ingrédients dans une poutine seulement. Je blague, mais donc on a des frites. Des bonnes frites. On les préfère avec des pommes de terre d'ici, coupées à la dernière minute. Une bonne sauce brune, une bonne sauce gravy.
C'est une sauce à la viande?
Pas tout le temps bouillon de viande. Principalement, c'est légumes. Ça dépend de plus en plus. Et un bon fromage en grains, fromage en crotte, fromage qui fait squish-squish, parce qu'on le veut très frais. Et bon, je ne sais pas si on va arriver à la radio à entendre le squish-squish, mais
bon, on va essayer, hein?
Ouais, j'aurais besoin.
Zazie s'essaye, on dirait qu'elle est en train de mâcher un chewing-gum.
Je le sens dans ma bouche, je ne sais pas si vous l'entendez, mais alors, ça fait bien squish-squish.
Oui, ah, donc il y a un côté un peu élastique, un peu rebondissant.
Ouais, mais je trouve qu'il a du goût. Moi, je trouve ça plutôt très agréable.
Donc, il y a plusieurs personnes à l'extérieur de nos frontières qui ont essayé de faire de la poutine, mais il faut du fromage en crotte, du fromage râpé, ça ne fonctionne pas.
Comment on le fabrique, ce fromage en grain que vous nous avez apporté? Et celui-ci, d'ailleurs, est d'une origine
particulière?
Ben, en fait, le fromage en grains, c'est un fromage cheddar qui est non pressé. Donc, c'est un fromage frais et il faut le manger frais. Alors, ne jamais mettre le fromage en grains au frigo. On le mange la journée même ou le lendemain, il est encore bon. On le retrouve dans tous les dépanneurs, toutes les épiceries, il y a du fromage en grains. C'est aussi quelque chose qu'on mange comme ça. Là. On s'achète un petit sac puis on le mange sur la route, sur le pouce, quand on a une petite fringale, un petit sac de fromage en grains et voilà. En fait, c'est dans les années 60 au centre du Québec, il y avait des surplus de lait et on a inventé le fromage en grains. Maintenant, il y a 133 fromages en grains sur le site de Fromage d'ici. Donc,
oula,
presque toutes les fromageries au Québec font leur fromage en grains, souvent une fois par semaine. Celui qu'on a, c'est le fromage en grains de la ferme Vallée Verte à Saint-Jean-de-Mata dans la Naudière. Alors, on est à peu près à 45 minutes, une heure de Montréal vers le nord-est. Ils font aussi du lait d'antan, du yogourt, mais vraiment, le fromage en grains, ça fait partie de notre identité. On en a à Montréal, on en a partout en région. Chaque région a son fromage en grains.
Et c'est ce fromage en grains que l'on voit s'assouplir sur la chaleur des frites dans la poutine.
Oui, et avec la sauce. Et c'est ça qui fait que c'est bon. C'est vraiment ça.
On en a mangé une au déjeuner dans un endroit, allez, on va le révéler, hein?
Oui, chez Schwarz Deli.
Alors, ils sont spécialisés, évidemment, pour le smoked meat.
Voilà.
On va dire, pour faire très court, que c'est le cousin du pastrami.
Absolument.
Et ils font également de la poutine.
Alors, les frites étaient d'excellente qualité, je tiens absolument à le souligner. Elles étaient bien croustillantes, très chaudes. Et ben, finalement, c'est quasiment un plat de régime, la poutine.
Oui, c'est bien ça, c'est vraiment un plat de régime. Une petite adresse, une autre adresse, s'il fallait recommander une adresse pour une bonne poutine, pour nos amis français. Ben, Simon?
Moi, j'ai un coup de cœur, c'est le Beaubien Nouveau Système, Beaubien Coin de Relais, à Montréal.
Quel quartier?
Presque dans la petite Italie.
Très bien.
C'est un vieux diner qui fait la meilleure poutine pour moi.
On va noter cette adresse sur le site internet franceinter.fr, à la page On va déguster. Vous avez une autre adresse, Geneviève?
Ben, il y a la Banquise, qui est toujours un classique de tout le monde.
Oula!
Il y a des fans.
Il y a tous les employés de la Banquise qui sont là,
voilà,
pour faire la claque.
Ils sont tous français. On retrouve des bonnes poutines partout. On a même des chefs qui ont même sublimé la poutine. Il y a Martin Picard avec sa fameuse poutine au foie gras aussi. Donc, ça vaut la peine aussi de l'essayer. Quand on veut, en plus d'avoir le fromage, d'avoir le foie gras, là, c'est encore plus un plat de régime.
Oui, tout à fait.
Et il y a également des crevettes
qui paradent nordique
sur le plateau dont on va déguster. Racontez-nous, Geneviève.
La crevette nordique, qui est vraiment unique au Québec. Puis c'était pour parler de la richesse du fleuve Saint-Laurent, qui est vraiment... on retrouve de tout. Et vous pouvez goûter donc la crevette décortiquée et la crevette avec la tête, qu'on ne retrouve pas tout le temps. C'est sûr que là, elles sont décongelées, mais il y a toute la saveur de la crevette
elles
dans celle décortiquée.
Il y a une sucrosité
c'est
dans ces
sucré,
crevettes.
Oui.
Incroyable.
Non, c'est vraiment, vraiment bon.
Vous la cuisinez, Simon?
Toujours.
De quelle manière?
Ça dépend des années.
En ce moment, par exemple?
En ce moment, ben là, c'est pas, sont pas tout à fait en saison. Fait qu'on attend que ça soit vraiment la saison. Ça annonce le printemps, ça annonce... Il y a comme une espèce de frénésie quand les crevettes sortent. Nous, à chaque année, quand les crevettes entières sortent, on se fait des pique-niques dans le parc. On met des bacs de crevettes avec un petit coup de vin blanc. Puis on essaie de faire des plats au restaurant.
Très bien. Parmi toutes les influences qui irriguent la gastronomie québécoise et montréalaise, il y en a une qui s'exprime en ce moment depuis quelques années avec beaucoup de sincérité. C'est un peu la cuisine des origines que l'on va redécouvrir avec notre chroniqueuse reportrice Zazie Tavitian.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie, pour votre chronique, vous avez carrément pris la poudre d'escampette, vous êtes même sortie de Montréal, vous avez pris un bus pour aller 2h30 plus à l'ouest, sur les bords du Saint-Laurent, dans la ville de Trois-Rivières.
Oui, j'étais motivée, donc j'ai pris un bus, je suis allée rencontrer la chef Lisanne Obamsawin. Elle cuisine notamment des plats issus de sa culture autochtone. Alors peut-être que je dois faire un petit rappel de ce que signifie autochtone. Je reprends la définition que m'en a donnée Lisanne. Ce sont les habitants qui étaient ici avant la colonisation, donc avant la venue des Européens. C'est un terme assez global qu'on peut utiliser dans d'autres pays. En Amérique du Nord, on parle aussi plus spécifiquement de Premières Nations, qui se répartissent elles-mêmes en plusieurs centaines de communautés. Il y a 11 communautés au Québec. Lisanne, elle vient de la communauté Abénakise d'Odanak. C'est une communauté qui est arrivée ici dans les années 1600. Aujourd'hui, elle compte 400 habitants environ. Et pour rentrer dans le vif du sujet, donc la gastronomie, j'ai demandé à Lisanne si elle avait une définition de la cuisine autochtone.
On ne peut pas parler d'une seule cuisine autochtone. Elle a évolué avec le temps. Dépendamment de où est-ce qu'on se retrouve sur notre territoire, là, ça va changer justement le type d'alimentation qu'on va avoir. Si on parle de 11 nations, c'est pas pour rien. C'est qu'on a 11 nations qui a vécu sur un territoire et qui, par conséquent, y allait avec ce qu'il y avait sous la main. On peut pas, nous, en tant qu'Abénaki, avoir, par exemple, du phoque. Par contre, vous allez pouvoir en retrouver sur le bord, dans le fond, de la Gaspésie ou un petit peu plus haut, dans le nord. Dans le fond, eux vont utiliser le phoque. À Haut-Donac, notre alimentation était vraiment diverse. On est carrément dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, on avait la possibilité de faire de l'agriculture et de faire, dans le fond, de la chasse et de la pêche et de la cueillette. On était donc semi-nomades, ce qui nous différencie pas mal des 11 nations du Québec.
Donc, c'est une cuisine qui est vraiment très liée à son territoire, en fait.
Totalement. On parle quand même d'un mode de survie. Nous, on fait partie intégrale de la nature et on fonctionne avec elle. Donc, par conséquent, on peut pas emmagasiner ou dire qu'on va aller chercher des aliments qui ne sont pas nécessairement directs de notre territoire. Maintenant, oui, là, parce que la colonisation a fait son œuvre. Moi, je suis ce que j'appelle, dans le fond, une enfant du village. Donc, moi, j'ai été élevée par les aînés de ma communauté. Donc, c'est pas une personne en particulier qui a pris en charge tout ça. Pour les mets traditionnels, ça s'est fait avec le temps. Il y a eu d'autres gens dans la communauté qui nous ont montré comment fumer le poisson. Il y a eu d'autres gens dans la communauté qui m'ont montré comment faire pousser les choses. Sinon, il y a des recettes qui m'ont été transmises, dans le fond, par ma grand-mère ou par mon grand-oncle. J'ai pu le reproduire sans problème.
Alors, Lisanne, elle est née et a habité à Haut-Donac jusqu'à ses 15 ans. Elle est ensuite partie faire ses études de chef en 2001 dans une école de cuisine française. C'est l'une des premières et des pionnières à avoir parlé de cuisine autochtone. Elle propose aujourd'hui un menu gastronomique inspiré du 19e siècle. L'idée, c'est que les plats parcourent une partie de cette histoire et la racontent. La chef, elle prépare notamment la sagamité, qui est une soupe que l'on retrouve dans de nombreuses communautés. C'est une soupe à base de viande, mais aussi de ce qu'on appelle les trois sœurs, donc maïs, haricots et courges, qui poussent très bien ensemble. Lisanne Obamsawin, elle me disait d'ailleurs, un peu en rigolant, qu'eux connaissaient déjà les principes de la permaculture depuis longtemps.
La sagamité, hein ?
Oui, sagamité. Et je lui ai demandé si toute cette connaissance des écosystèmes et des savoir-faire, eh bien, ça se transmettait encore aujourd'hui.
Ça dépend des communautés, parce que, veux pas, avec la colonisation, ce qui s'est passé avec la loi sur les Indiens, ça a changé beaucoup la donne. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'Autochtones qui se sont ramassés en pensionnat. On disait, dans le fond, de tuer l'Indien chez l'enfant, de retirer l'enfant de sa famille très tôt. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a eu quand même une grande déchirure au niveau culturel. Il y a eu une période à partir de 1865 à 1895, les Autochtones et les Canadiens français n'avaient plus le droit de chasse. À ce moment-là, ça devient un petit peu plus compliqué, si vous voulez, de montrer un peu cet apprentissage-là quand c'est complètement interdit. Donc là, on s'est ramassé à avoir carrément à aller dans le côté plus urbanisé, là.
Est-ce que finalement, vous, le fait de raconter cette histoire-là à travers la cuisine, c'est une façon aussi de parler de la communauté autochtone un peu loin des clichés, des folklores ou des fantasmes qu'on peut en avoir?
Totalement. Totalement. Moi, je considère que c'est justement une façon d'éduquer les gens puis de leur démontrer comme de quoi qu'on n'est pas si loin l'un de l'autre au niveau de notre évolution culinaire. Ça rapproche.
Zazie, est-ce que vous avez goûté cette cuisine autochtone?
Ben, encore mieux, François, on va la goûter ensemble. Enfin, je vois que vous êtes peut-être déjà en train de la goûter. Je vous ai apporté le pain bannick. C'est aussi un pain qui est issu de la colonisation. Il est arrivé avec les Écossais et donc avec la farine de blé qui n'était pas présente avant sur le territoire. Donc c'est un pain à base de blé, eau, poudre à lever et matière grasse. Ici, c'est du beurre. On peut l'agrémenter de ce qu'on veut. Donc dans celui-là, il y a des bleuets. Et la chef m'a recommandé de le tremper dans du sirop d'érable. Donc c'est ce qu'est en train de faire généreusement Jérôme. À côté
là,
de moi.
Je suis dénoncé.
Tout se passe bien, Jérôme? Vous me laissez un peu de sirop d'érable ou pas?
Oui, il y en a encore plein. C'est très, très bon.
Il existe justement des restaurants qui vraiment incarnent cette cuisine autochtone sur la scène montréalaise?
Sur la scène montréalaise, il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Partout ailleurs, il y a des... Tu sais, comme on est à Trois-Rivières, il y en a de plus en plus. À Québec, il y a Wendake aussi. Il y a un restaurant là-bas gastronomique très connu aussi. Je pense qu'on commence à vouloir un peu plus leur faire de place. Puis c'est sûr que dans les prochaines années, là, on risque d'en voir plus.
Est-ce que c'est une cuisine, Simon Matisse, qui vous intéresse, qui éventuellement peut vous inspirer, même si on prend évidemment aussi le risque de la caricaturer, hein?
Absolument. Je pense que, tu sais, on parlait tantôt, j'ai entendu de faire fumer, la conservation. Je pense que c'est des savoir-faire qui sont super importants. Puis en plus, sur le territoire sur lequel on vit aujourd'hui, ben c'est, on n'a pas le choix de savoir ces techniques-là puis de s'inspirer de comment ils le faisaient. Je pense que c'est très important.
Juste pour dire, si jamais vous voulez goûter la cuisine de Lisanne, elle a un service de traiteur. Mm-hmm. Et elle me disait même que si on lui payait son billet d'avion pour la France, elle viendrait avec grand plaisir.
Et ben voilà.
Cuisiner.
Et ben, welcome. Voilà. Les Français, les gourmets français ont le palais très ouvert. On l'accueillera avec un immense plaisir. Il faut juste préciser pour nos auditeurs et nos auditrices ce qu'est un bleuet. Nous, on a la myrtille dans les Alpes ou dans les Pyrénées. On a un peu tendance à confondre les deux fruits. Bleuet.
Ben, bleuet, c'est pas comme la myrtille.
C'est plus gros déjà.
C'est
le bleuet, c'est le bleuet. On en met absolument partout. Vous l'utilisez aussi, le bleuet, Simon Matisse?
En saison, oui. Ben oui, je pense que c'est un beau fruit en dessert de saison. Ça amène une belle acidité, un beau fruit.
Et on a découvert hier à la table de Mastar également un autre fruit. Alors, moi, je suis très curieux, mais je n'y avais jamais été confronté. C'est la camerise. Alors là, en l'occurrence, on parle d'un fruit cultivé.
Oui. C'est un mélange, je pense, justement, entre la myrtille, la framboise et le bleuet. Je pense que c'est un mélange. C'est un fruit qui est un peu plus floral que le bleuet.
Plus allongé dans sa forme.
Mm-hmm. C'est ça, c'est un peu oblong.
Oui.
Avec une prune. Donc, il y a vraiment ce côté comme ça, un petit peu poudré, que l'on trouve sur la peau très, très, très noire, très violette.
Oui. Depuis 2007, on le cultive au Québec. Puis le Québec veut devenir le plus gros producteur de camerise. Ça pousse très bien dans les climats nordiques du Québec. Et c'est de plus en plus utilisé.
Et il y a justement cette confiture. Vous nous en dites un mot, puisque c'est un mélange de deux baies. Et il y a également une petite note de conifère.
Le bleuet, la camerise, et il y a un petit peu de sapin baumier aussi, parce que tantôt, on parlait des produits boréaux. Il y en a de plus en plus dans la cuisine de nos chefs, mais aussi dans les produits transformés. Donc, un sapin baumier, c'est la confiture de Jérémy Postel. Et lui est un herboriste. C'est lui-même qui cueille ses pousses de sapin baumier. Donc, un petit peu de vraiment la saveur de la forêt là, qu'on retrouve dans ce produit-là.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau de cette confiture, Jérôme Gagnez?
C'est très, très bon. Il y a beaucoup de sucre comme dans une confiture. Il y a de l'acidité. C'est extrêmement parfumé. C'est complexe, c'est vraiment absolument délicieux.
Montréal en lumière, on est bien au chaud dans le quartier gourmand du festival. On se tient chaud avec un public venu nombreux, merci beaucoup. On est en sous-sol, hein, sous à peu près la place Sainte-Catherine. Mais dehors, il y a de la neige, il fait froid, très froid, voire frette.
Mais c'est quoi la différence entre froid puis frette?
Frette, là, c'est du moins 30 et plus. Froid, c'est entre 0 et 20.
Ben, quand tu fais frette, tu fais plus frette que froid.
Froid, c'est froid. C'est correct, c'est vivable. Frette, ça en va dans le sud.
Il fait chaud. Ça sent le fantôme, le swing, le fumier du printemps. Puis mère nature qui se loge lousse, qui abandonne. Il fait chaud. On baisse le chauffage du soleil qui rôtit nos peaux. On se chiffonne dans on se lance toutes comme des cinglés sur les plages de Chédiac ou de Capelet. Il fait chaud. Il fait chaud. C'est qu'il fait chaud. Il fait chaud. Les oiseaux sortis, je trouve ça. Jusqu'à ce qu'il me réveille le samedi matin, puis que je pète ma coche, puis je vais tirer des roches. Il fait chaud, oh, oh, c'est le festival. Des grands bédaines, puis des touristes dans des speedos fluo. On se met une nouvelle couche de peinture après que l'hiver nous a déteindus. Il fait chaud.
Il fait chaud, Lisa Leblanc, un titre de 2013. Et la cuisine de Montréal, c'est notre menu du jour.
On va déguster Montréal sur France Inter.
Nous sommes en compagnie de Geneviève Vézina, mon plaisir, et du chef Simon Matisse, dont on entend beaucoup parler sur la scène de Montréal, mais également à l'étranger. Un petit mot sur ce magazine pour lequel on a vraiment eu un énorme coup de cœur. Il y a du fond, il y a de la forme, énormément de découvertes, des articles très très bien écrits et surtout très fouillés. C'est Caribou que vous avez cofondé en 2014. Vous nous en dites un mot, Geneviève?
Oui, ben justement, cette idée de partir un magazine sur la culture culinaire québécoise est vraiment venue d'être témoin de ce bouillonnement, en fait, qui commençait il y a 8 ans. On trouvait que, justement, les chefs, les producteurs, il y avait vraiment un mouvement. Puis, dans le fond, la culture, c'est aussi la nourriture. Donc, c'est ça qu'on avait envie de témoigner. Donc, chaque numéro a une thématique. Puis, il y a une thématique Montréal que vous tenez entre vos mains.
Et oui, un numéro entier daté de 2017, mais qui nous a beaucoup servi dans la préparation de cette émission. Et on dit souvent en France qu'il y a des gastronomies quand elles sont accompagnées par des journalistes. Et il est vrai qu'il y a à Montréal cette effervescence médiatique, un intérêt énorme porté au talent de la scène gastronomique.
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de critiques. C'est tellement foisonnant. Il y a tellement de belles histoires à raconter. Donc, il y a des gens pour le faire. Puis, c'est ça qu'on essaie de faire le mieux possible.
On évoquait les beaux produits du terroir du Québec. Je voudrais quand même saluer le travail d'une équipe qu'on a rencontrée hier dans un restaurant qu'on a beaucoup apprécié, État-major. Ça s'appelle Racine Boréale. C'est un duo qui part à la recherche de produits sauvages qu'il redistribue à des gourmets, mais également à des chefs. On a découvert notamment dans un plat hier du sumac. Mm-hmm. On l'appelle le citron des montagnes. En général, on a tendance à penser qu'il est originaire du Levant et en particulier du Liban en Méditerranée. Il en pousse également du côté de Marseille, dans le sud de la France. Et voilà le sumac dont on découvre qu'il pousse un peu partout, comme du chien dent au Québec, Simon Matisse.
Absolument, il y en a un peu partout. C'est vraiment presque une mauvaise herbe. Mais c'est très bon. On est content qu'il y en ait autant au Québec comme ça.
Et vous l'utilisez aussi?
Absolument.
Et vous utilisez évidemment des champignons, des herbes sauvages. Ouais. Il y a vraiment un terroir forestier absolument incroyable.
Incroyable. Tout ce qui se passe l'été, surtout, c'est fou. Tout ce qui pousse au Québec, on a un territoire formidable. Je pense qu'on a de quoi être fier.
Avant de voir ce qu'il se passe dans le verre, encore un tout petit coup de cœur à déguster avec vous, Geneviève. Ce petit élixir qui est présent dans nos gobelets, peut-être aurez-vous l'occasion de le goûter, cher public.
Alors, c'est un balsamique de pommes et érables, de surette condiment. On connaît beaucoup le vinaigre balsamique de Modène, qui est fait avec un moût de raisin, mais celui-là est fait avec un moût de pommes cuit et aussi du sirop d'érable. Surette condiment, eux, ont vraiment décidé de nous donner des alternatives, en fait, aux produits qui viennent d'ailleurs de l'Italie, par exemple, et on peut faire des très bons produits ici, donc je vous invite à goûter, vous me direz ce que vous en pensez.
Oh! Ah, je m'attendais à un truc un peu plus doux. Hein.
Donc oui, c'est du vinaigre.
Oui, je viens de le constater.
De pommes et érables. Peut-être pour vous donner quelque chose de plus doux, peut-être une petite gorgée de oui. L'autre qui est une huile de caméline torréfiée de l'entreprise signée Cameline, qui a remporté le premier prix au concours du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation Syrah Innovation Lyon. Donc c'est la première fois qu'il y a un produit du Canada qui a gagné ce prix-là. La cameline, mais là, qui est torréfiée, donc qui a un petit goût, on veut rappeler un peu le sésame grillé. Donc, encore là, la preuve qu'on n'a pas besoin d'utiliser nécessairement de l'huile d'olive, mais qu'on a un produit d'ici qui peut être super parfumé. Donc, c'est un produit qui est plus utilisé comme en finition. Je pense que quelques chefs l'utilisent. L'utilises-tu, Simon?
Ben oui, en fait, dans le mix de salade que vous avez mangé avec le canard, il y en a dedans. Donc, on l'écrase et puis on mortit avec l'huile de cameline, un peu de verjus pour assaisonner. C'est vraiment une huile de finition.
C'est vraiment une huile extraordinaire. Alors, la cameline, on parle évidemment d'une cousine du colza, de la famille des brassicacées. Hein. C'est donc la grande famille
oui.
des choux.
Oui.
Que se passe-t-il dans les verres de Montréal? Eh bien, on va voir qu'il se passe justement des choses passionnantes et insoupçonnées. C'est la chronique de Jérôme Gagnaise.
On va déguster sur France Inter.
Alors, je vais ouvrir une bouteille. Vigneron m'a dit, tu feras attention parce que c'est sauvage à l'ouverture parfois. Donc Zazie vient de prendre ses distances. Merci beaucoup, on est soutenu dans la difficulté. Alors j'ouvre.
Oh, ça va?
Ouais, c'est très calme. Hein.
Ça se passe bien.
C'est un effervescent qui vient d'un domaine qui s'appelle Negondos. Mais avant de vous parler plus particulièrement de cet effervescent, je voudrais en fait faire un tout petit point pour nos auditeurs qui sont partout en France sur la viticulture québécoise. Et en fait, le résultat un peu de la petite énigme que j'ai donnée au début, c'est dans les vignes, le continent européen rencontre le continent nord-américain. Il faut savoir en fait que le vignoble québécois, c'est à peu près aujourd'hui, en 2023, probablement à peu près 1000 hectares de vignes.
Par comparaison, pour les Français, il y a 3500 hectares de vignes à Sancerre, il y a 5000 hectares de vignes à Chablis, donc ces 1000 hectares, c'est quand même un assez petit vignoble. Pratiquement la moitié de la production, c'est du vin blanc, 30% c'est du vin rouge, et puis le reste se partage entre le rosé et l'effervescent. Et puis surtout, c'est un vignoble qui est très majoritairement planté de cépages hybrides. Alors très rapidement, c'est un croisement d'une variété de vignes américaines, donc Vitis, c'est le genre, et puis ensuite, il y a l'espèce, donc là, c'est plutôt Rupestris, Labrusca, Riparia. Ça, ce sont des espèces américaines. Et puis, on va croiser ça avec la vigne européenne, Vitis, le genre toujours, et l'espèce Vinifera. On peut considérer globalement que Vinifera produit est la vigne qui produit des vins fins. Mais la vigne américaine, elle a un très grand avantage, c'est qu'elle est rustique et donc elle résiste au froid, elle résiste à certaines maladies, elle est donc très résistante. Et l'idée de l'hybride, eh bien, c'est d'associer les qualités de finesse de Vinifera aux qualités de résistance de la vigne américaine, de Rupestris, de Labrusca, de Riparia. Et donc, il y a un certain nombre de cépages hybrides au Québec qui sont plantés, parce qu'il faut bien imaginer qu'il y a une saison d'hiver qui est évidemment très froide, et donc il faut que ces cépages soient capables de résister à des grands froids. Et puis ensuite, il faut que ces cépages aussi aient un cycle végétatif assez court, puisque en fait, il est amputé de 2 ou 3 mois par rapport à l'Europe. En Europe, ça commence en gros début mars, ça se termine fin septembre. Ici, c'est mi-mai et ça se termine mi-septembre. Donc il y a vraiment un cycle végétatif beaucoup plus court, donc il faut arriver à maturité beaucoup plus rapidement. Donc ce sont des vins qui sont assez différents de ce que nous dégustons, de nos viniféras européens, qui sont différents mais pas moins bons. Et précisément, ce matin, je suis allé visiter un domaine, c'est un tout petit domaine, 3 hectares. Ça a été le premier domaine bio du Québec, c'est le domaine Négondos. C'est Carole Desrochers et Mario Plante qui ont créé ce petit domaine. Alors, ils sont installés en 93, ils ont commencé à faire du vin en 86. Et là, nous dégustons dans nos verres un effervescent d'un cépage qui s'appelle le Céval. C'est un cépage blanc hybride, on appelle ça un hybride semi-rustique parce que c'est, il y a à la fois du Vinifera et du Rupestris et du Riparia. Et donc là, ce cépage qui a été inventé en France, qui a été créé en France, eh ben ça donne des très bons effervescents. Alors,
c'est vibrant et c'est avec une verticalité acide.
Quelque chose de vibrant, de frais, c'est vraiment une caractéristique globale des vins québécois.
Vous aimez, Simon, et plus globalement, vous vous intéressez beaucoup aussi à ces vins québécois qu'on trouve sur votre carte.
Absolument. Oui, de plus en plus, je pense que le savoir-faire commence à prendre place, à s'enraciner aussi. Je pense qu'il y a des beaux trucs qui commencent à sortir, puis je pense que c'est bien de les mettre de l'avant.
On en profite juste d'ailleurs pour saluer cette sommelière extraordinaire d'une grande curiosité.
Tout à fait.
Qui nous a fait faire de très belles découvertes chez Mastar. On peut citer son nom, Simon?
Joanie Lévesque. Très content de l'avoir avec nous.
Passionnée et passionnante. Bravo. Ce que vous disiez, Geneviève, est très juste. La grande, enfin, une des particularités des hybrides, c'est d'avoir des acidités qui sont très élevées, beaucoup, beaucoup plus élevées que des simples viniféras comme nous avons en Europe. Donc, on a goûté ça. Donc, voilà, c'est un petit exemple, mais qui me semble très parlant, de la qualité de ce qu'on peut trouver au Québec en termes notamment de vin blanc. C'est un très beau vignoble de vin blanc. Et il y a, à mon avis, en termes de gastronomie, beaucoup de choses à faire. Mais je ne veux pas seulement vous parler du vignoble du Québec, parce qu'on a fouiné un peu dans des brasseries. Et on a été totalement charmé par ce qu'on a dégusté. Et en particulier, je dois avouer, des spécialités de bière à Montréal, notamment avec des macérations de fruits rouges. Et je tire mon chapeau, un grand bravo à tous ces brasseurs qui nous font des bières avec des fruits rouges sans sucre. Il y a de l'acidité, c'est rafraîchissant, c'est droit, c'était très pur aromatiquement. On a vraiment eu des très jolies choses. On peut citer Ciboire à Mile End.
Ah oui.
Mile End, pardon.
Ah là là, une sourde, absolument.
Rêve en couleur.
Étonnante.
Précipitez-vous chez Ciboire, c'était absolument formidable. On a goûté chez les Sœurs Grises une très jolie bière qui s'appelle Marguerite. Alors elle, c'est une ale blonde, droite, nickel, avec une amertume fine. Et puis, je ne peux pas ne pas citer Aricana, qui est dans le quartier du marché Jean Talon, avec un assemblage cerise-orange qui nous a électrisés, comme dirait l'autre. On a adoré.
Et qui a très bien accompagné ce que nous autres Français appelons un lobster roll.
Voilà.
Mais que vous appelez ici
une
guédille homard. C'est tellement plus joli.
Donc, je repars plein d'enthousiasme, sous le charme à la fois des vins et des bières et d'une scène brassicole montréalaise qui est très, très enthousiasmante et qui est pointue.
Merci beaucoup, Jérôme Gagnaise. On n'est pas loin de la fin de cette émission. Allez, on va juste demander un petit coup de cœur, parce que vous avez fait aussi une très belle découverte, Zazie, vous teniez à nous en parler.
Oui, alors d'ailleurs, j'y ai bu des très bons vins, il s'agit de Vin Mon Lapin. C'est une adresse qui a été montée par Marc-Olivier Frappier et Vania Filipovic. Et c'est une petite cuisine bistronomique, hyper percutante, le service est adorable. J'ai mangé par exemple joues de morue frites aux algues épicées, c'était délicieux, ou encore un croque-pétoncle.
Puis citons aussi une très belle adresse que nous avons faite, une sandwicherie dans le quartier de Mile End. C'est Nita Tout Garni, ça a ouvert il y a très très peu de temps, avec des sandwichs entièrement maison. Là aussi, une très belle sélection de jaja, comme on dit en France, des vins d'auteur.
Oui,
c'était réjouissant.
Oui, une belle sélection de pointue en importation privée. Je cite juste le Rouge-Gorge très vite. Laurent Farre et Simon Perrotte et Alain Rochard qui ont créé ce bar à vin qui est une petite merveille sur le plateau de Mont-Royal. Et vraiment, c'est un très joli bar à vin, le Rouge-Gorge.
Geneviève, Vézina, mon plaisir, un dernier petit coup de cœur ou le mot de la fin?
Oh, ben, un petit coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup le bar Saint-Denis sur Saint-Denis. Belle bouffe, belle ambiance, beaucoup de beaux produits québécois aussi à l'honneur.
Et nous, on a un vrai coup de cœur, c'est le restaurant Mastar, mais ça, vous l'avez compris.
Bien sûr, bien sûr.
De Simon Matisse. Je suis persuadé que beaucoup de gourmets français vont venir vous rendre visite. J'espère que vous êtes aussi ouvert l'été, bien sûr.
Toujours, mais oui.
Au contraire,
la haute saison,
les produits doivent être très intéressants pour une expérience culinaire à ne pas rater sur la scène gastronomique de Montréal. On va d'ailleurs vous quitter parce que vous préparez un quatre-mains à nouveau ce soir.
Oui, ce soir, oui.
Et vous avez été vraiment très sympa de vous rendre disponible spécialement pour nous. Geneviève Vézina, mon plaisir, un grand merci.
Merci à
Magazine
vous.
Caribou, c'est évidemment du papier, mais c'est aussi un support multiplateforme. Hein.
Oui, caribou-mag.com. Et pour nos amis français, il y a toujours le format numérique.
Je voudrais remercier Montréal, très sincèrement, pour un accueil exceptionnel, un accueil aux petits oignons. L'Office montréalais de la gastronomie, toutes les équipes du Festival Montréal en lumière, avec un merci particulier à Jérémy Spélanzon et Jacques Primo, Geneviève Archambault et Marisa Iaconelli de Tourisme Montréal, Geneviève Marcotte et l'équipe de Spectra qui nous ont aidés à monter ce plateau. La semaine prochaine, malheureusement, bon allez, on va quand même rentrer à Paris avec un petit peu de sourire. Retour dans nos studios parisiens de la Maison de la Radio pour une émission avec la super chef d'origine brésilienne, Alessandra Montagne, Elvira Masson, Antoine Gerbel et Jean Mata Cristol seront avec nous à dimanche prochain. Si vous avez encore faim, merci Montréal.